Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM. Vous êtes donc dans l'émission Poète mais pas les plombs. Avec bien du courage, nous sommes venus jusqu'ici, mais nous ne pouvons que regarder avec respect le courage de nos poilus qui sont morts fusillés dans la boue dans les tranchées. Cet après-midi, nous allons vous lire des lettres de fusillés. Voilà. Quelques musiques, mon petit ami, pour commencer ?
Commençons par Guillaume Apollinaire, Le palais du tonnerre. Par l'issue ouverte sur le boyau dans la craie, en regardant la paroi adverse qui semble en nougat, on voit à gauche et à droite fuir l'humide couloir désert où meurt étendue une pelle à la face effrayante à deux yeux, réglementaire, qui servent à l'attacher sous les caissons. Un rat y recule en hâte, tandis que j'avance en hâte. Et le boyau s'en va couronné de craies semées de branches, comme un fantôme creux qui met du vide où il passe blanchâtre. Et là-haut, le toit est bleu et couvre bien le regard fermé par quelques lignes droites. Mais en deçà de l'issue, c'est le palais bien nouveau et qui paraît ancien. Le plafond est fait de traverses de chemin de fer, entre lesquelles il y a des morceaux de craie et des touffes d'aiguilles de sapin. Et de temps en temps, des débris de craie tombent comme des morceaux de vieillesse. À côté de l'issue que ferme un tissu large d'une espèce qui sert généralement aux emballages, il y a un trou qui tient lieu d'âtre et qui brûle est un feu semblable à l'âme, tant il tourbillonne et tant il est inséparable de ce qu'il dévore et fugitif. Les fils de fer se tendent partout, servant de sommier, supportant des planches. Ils forment aussi des crochets et l'on y suspend mille choses comme on fait à la mémoire. Des musettes bleues, des casques bleus, des cravates bleues, des vareuses bleues, morceaux du ciel, tissus des souvenirs les plus purs, et ils flottent parfois en l'air de vagues nuages de craie. Sur la planche brillent des fusées, détonateurs joyaux dorés à tête émaillée, noirs, blancs, rouges, funambules qui attendent leur tour de passer sur les trajectoires, et font un ornement mince et élégant à cette demeure souterraine, ornée de 6 lits placés en fer à cheval, 6 lits couverts de riches manteaux bleus. Sur le palais, il y a un haut tumulus de craie et des plaques de tôle ondulée, fleuve figé de ce domaine idéal, mais privé d'eau, car ici, il ne roule que le feu jailli de la mélinite. Le parc aux fleurs de fulminate jaillit de des trous penchés, tas de cloches aux doux songes des douilles rutilantes, sapins élégants et petits comme en un paysage japonais. Le palais s'éclaire parfois d'une bougie à la flamme aussi petite qu'une souris. Ô palais minuscule, comme si on te regardait par le gros bout d'une lunette, petit palais où tout s'assourdit, petit palais où tout est neuf, rien, rien d'ancien, et où tout est précieux, où tout le monde est vêtu comme un roi. Une selle est dans un coin à cheval, sur une caisse, un cheval, un journal du jour traîne par terre. Et cependant tout paraît vieux dans cette neuve demeure, si bien qu'on comprend que l'amour de l'antique le goût de l'anticaille, soit venu aux hommes dès le temps des cavernes. Tout y était si précieux et si neuf. Tout y est si précieux et si neuf. Qu'une chose plus ancienne ou qui a déjà servi y apparaît plus précieuse. Que ce qu'on a sous la main, dans ce palais souterrain creusé dans la craie, si blanche et si neuve. Et deux marches neuves, elles n'ont pas deux semaines, sont si vieilles et si usées dans ce palais qui semble antique, sans imiter l'antique, qu'on voit que ce qu'il y a de plus simple, de plus neuf, est ce qui est, le plus près de ce que l'on appelle la beauté antique, et qui est surchargé d'ornements. Il a besoin de vieillir pour avoir la beauté qu'on appelle antique, et qui est la noblesse, la force, l'ardeur, l'âme, l'usure de ce qui est neuf et qui sert, surtout si cela est simple, simple, aussi simple que le petit palais du tonnerre.
Alors, je vais vous lire un extrait d'un poème qui s'intitule « Tu vas te battre » de Marcel Martinet. Marcel Martinet, ce poème est a été repris dans un recueil qui s'appelle « Les temps maudits », qui est sans doute un des meilleurs recueils de poésie sur 14-18. Et ce poème est daté, la date n'est pas innocente ni indifférente, du jeudi 30 juillet 1914. Eh oui. Alors voici cet extrait. Pauvre, tu vas te battre contre les riches, contre les maîtres, contre ceux qui mangent ta part, contre ceux qui mangent ta vie, contre les bien nourris qui mangent la part et la vie de tes fils, contre ceux qui ont des autos et des larbins et des châteaux. Des autos de leur boue éclaboussant ta blouse, des châteaux qu'à travers leurs grilles tu admires, des larbins ricanant devant ton bourgeron. Tu vas te battre pour ton pain, pour ta pensée, pour ton cœur, pour tes petits, pour leur maman, contre ceux qui t'ont dépouillé, et contre ceux qui t'ont raillé, et contre ceux qui t'ont souillé de leur pitié, de leur injure. Pauvre courbé, pauvre déchu, pauvre insurgé, tu vas te battre contre ceux qui t'ont fait une âme de misère, ce cœur de résigné et ce cœur de vaincu. Pauvre paysan, ouvrier, avec ceux qui t'ont fait une âme de misère, avec le riche, avec le maître, avec ceux qui t'ayant fusillé dans tes grèves, t'ont rationné ton salaire, pour ceux qui t'ont construit autour de leurs usines des temples et des assommoirs et qui ont fait pleurer devant le buffet vide ta femme et vos petits sans pain, pour que ceux qui t'ont fait une âme de misère restent seuls à vivre de toi et pour que leur grand cœur ne soit pas point assombri par les larmes de leur patrie, pour te bien enivrer de l'oubli de toi-même, pauvre paysan, ouvrier, avec le riche, avec le maître, contre les dépouillés, contre les asservis, contre ton frère, contre toi-même, tu vas te battre, tu vas te battre. Va donc, dans vos congrès, vous vous serriez les mains, camarades. Un seul sang coulait dans un seul corps. Berlin, Londres, Paris, Vienne, Moscou, Bruxelles, vous étiez là. Le peuple entier des travailleurs était là. Le vieux monde oppresseur et barbare, sentant déjà sur soi peser vos mains unies, frémissait, entendant obscurément monter sous ses iniquités et sous ses tyrannies les voix de la justice et de la liberté. Hier, constructeurs de cités, âmes libres et fières, cœur franc, vous étiez là, frères d'armes, debout et confondus devant un ennemi commun. Hier et aujourd'hui, aujourd'hui comme hier, Berlin, Londres, Paris, Vienne, Moscou, Bruxelles, vous êtes là. Le peuple entier des travailleurs est là. Il est bien là, le peuple des esclaves, le peuple des hâbleurs et des frères parjures. Ces mains que tu serrais, elles tiennent bien des fusils, des lances, des sabres. Elles manœuvrent des canons, des obusiers, des mitrailleuses contre toi. Et toi, toi aussi, tu as des mitrailleuses. Toi aussi, tu as un bon fusil contre ton frère. Travaille, travailleur, fondeur du Creusot. Devant toi, il y a un fondeur d'Essène. Tue-le, mineur de Saxe. Devant toi, il y a un mineur de Lens. Tue-le, docker du Havre. Devant toi, il y a un docker de Brême. Tue et tue. Tue-le, tuez-vous, travaille, travailleur. Ô, regarde tes mains, ô pauvre, ouvrier, paysan, regarde tes lourdes mains noires, de tous tes yeux, usés, rougis. Regarde tes filles, leurs joues blêmes, regarde tes fils, leurs bras maigres, regarde leurs cœurs avilis. Et ta vieille compagne regarde son visage, celui de vos 20 ans, et son corps misérable et son âme flétrie, et ceci encore devant toi. Regarde la fosse commune, tes compagnons, tes pères et mères. Et maintenant, va te battre.
31 juillet, Jean Jaurès, le grand orateur socialiste et pacifiste, est assassiné dans un café parisien. Son ami Pierre Renaudel est témoin du drame.
Une main s'avance vers la tête de Jaurès. Un scintillement de nickel, deux éclairs, deux claquements. Dès le premier, Jean Jaurès s'est incliné doucement sur le côté gauche. Une clameur déchirante et aiguë de Marguerite Poisson. Ils ont tué Jaurès. Dans la rue, Raoul Villain est presque aussitôt arrêté. Au milieu du tumulte dont le café s'emplit, je regarde Jaurès dont la tête est là, inerte sur mes genoux. Jaurès a été surpris en plein sourire. Au milieu des sanglots, le docteur prononce « Messieurs, monsieur Jaurès est mort ».
Très bien.
Eh bien, je vais continuer à la suite. Et c'est très difficile parce que cette voix que vous venez d'entendre est la vraie voix de l'ami de Jean Jaurès. Et Jérôme Garcin, qui dirige une émission qui s'appelle Le Masque et la Plume sur France Inter le dimanche, a édité un bouquin qui s'appelle Bleu Horizon et qui traite de la vie et de la mort en novembre 1914 de Jean de la ville de Miremont, poète, qui lui est parti à la guerre, la fleur au fusil, et qui est décédé à Vanay-en-Champagne d'une balle tirée en pleine tête. Je vais vous lire simplement la fin du roman et vous comprendrez pourquoi. Âgé de 47 ans, le major Ulrich Hohenberg avait servi en 1914 avec sa compagnie sur le front de Verneuil, où il avait reçu la croix de fer pour acte de bravoure, et il avait pris ses fonctions à Sens en janvier 1941. Louis Gémont, lui, aurait rendu plusieurs fois visite à l'hôtel de Paris, où il logeait et commandait pour le secteur de Lyon la Feld Gendarmerie. Les archives allemandes mentionne de simples rencontres de courtoisie entre les deux hommes, qui parlaient pour l'essentiel de littérature et de la Grande Guerre, au cours de laquelle ils se seraient affrontés à quelques centaines de mètres l'un de l'autre et auraient peut-être échangé les jours de cessez-le-feu des boîtes de pâté et des cigarettes. On a trouvé, dans les affaires du major Hohenberg, un exemplaire numéroté de l'Horizon chimérique, édition originale de 1920, ornée de bois gravé de Léon Dussouchet, que Louis Gémont lui avait offert en lui dédicaçant ainsi, au major Hohenberg, ses poèmes d'un jeune rêveur dont un obus allemand a brisé le beau voyage. Eh bien, cet homme-là s'est précipité le 22 janvier 1943 et il a tué le Ulrich Hohenberg. Il a été emporté ensuite par la Lande, déporté, on ne sait pas où son corps repose encore à l'heure actuelle. Donc vous voyez qu'entre 1914 et 1940, il y a des lourds parallèles à faire. Et je vais vous lire le début du livre de Jérôme Garcin, Bleu Horizon, un poème que sa mère a retrouvé sur sa table de travail quand Louis Gémont est venu chez lui, chez elle, pour lui apporter son témoignage sur la mort de son fils. Sur la table de mon fils, j'ai trouvé ce poème prémonitoire qu'il écrivit la veille de son départ pour l'armée. Je vous en confie le manuscrit, moi je le connais par cœur. Cette fois, mon cœur, c'est le grand voyage. Nous ne savons pas quand nous reviendrons. Serons-nous plus fiers, plus fous ou plus sages ? Qu'importe, mon cœur, puisque nous partons. Avant de partir, mets dans ton bagage les plus beaux désirs que nous offrirons. Ne regrette rien, car d'autres visages et d'autres amours nous consoleront. Cette fois, mon cœur, c'est le grand voyage.
Eh bien, je vais vous dire, moi, une lettre de la petite fille du dernier poilu, de Lazare Ponticelli, dernier poilu qui est mort à l'âge de 110 ans et qui a refusé d'être enterré au Panthéon. Cette lettre date d'une dizaine d'années déjà, mais elle est encore d'une très très grande actualité. Mon arrière-grand-père, soldat de 2e au 129e bataillon d'infanterie de la 24e compagnie, portant le matricule 14578, est lui aussi mort pour la France le 8 mai 1916. La seule trace qui reste de lui est son nom gravé sur le monument aux morts de la commune de Saint-Fons, à Lyon. Ma grand-mère Clotilde fut déclarée pupille de la nation. Ce statut qu'on accorde en France aux orphelins bénéficiant d'une tutelle particulière de l'État. Comme 990 000 autres enfants, la République française, patrie des Lumières, prit-elle un soin si particulier qu'elle se retrouva à 13 ans dans l'usine pharmaceutique des frères Poulenc, l'ancêtre du géant Ron Poulenc. Ses petits doigts d'enfant avaient été jugés assez habiles pour attraper les comprimés qui défilaient devant elle et les placer dans des boîtes. Seules 3 générations nous séparent. Et pourtant aujourd'hui, des moralisateurs de tout poil brandissent un doigt vertueux pour dénoncer le travail des enfants dans le monde. Sans jamais parler, ou si peu, de nos grands-mères, contraintes de faire la fortune de ces mêmes multinationales, bouffeuses d'enfants, parce que leur père était mort pour la France. Lazare Ponticelli n'a concédé des funérailles nationales qu'à condition qu'elle soit dédiée à tous ses camarades morts au combat. Au nom de mon arrière-grand-père, je l'en remercie. Mais y parlera-t-on des morts de 1914-18, fusillés par leurs propres généraux, pour s'être opposés à la guerre, l'un en désertant, l'autre en s'automutilant, le troisième en fraternisant avec l'Allemande en face. Y lira-t-on un extrait de ces lettres extraordinaires qu'envoyaient les soldats, ouvriers, paysans, petits artisans ou gratte-papiers à leur famille, comme celui-ci d'une lettre de brancardier Jean Potacher, qui devrait faire partie des perles de la littérature française. Si la censure ouvre cette lettre, j'aurai évidemment des ennuis. Je viens de faire une chose innocente et pourtant énorme et qui me laisse comme sortir d'un rêve. J'ai parlé Fritz. Henri Barbusse, bien qu'officier car universitaire, avait choisi de la faire la Grande Guerre, dans les tranchées. Il y nota jour après jour les conversations des poilus, dont chaque nouvelle boucherie creusait davantage la conscience. Quand tous les hommes se seront faits égaux, on se sera bien forcé de s'unir. Et il n'y aura plus à la face du ciel des choses épouvantables faite par 30 millions d'hommes qui ne le veulent pas. J'écoute. Je suis la logique de ces pauvres gens, jetés sur le champ de douleur, les paroles qui jaillissent de leur meurtrissure et de leur mal, les paroles qui saignent d'eux. Pourtant, 90 ans plus tard, des enfants de moins de 13 ans creusent la terre pour y trouver du coltan, afin que d'autres enfants puissent s'envoyer des SMS. Non! Les hommes ne sont pas faits égaux entre eux. Pourtant, quand j'écris ces lignes, des hommes, soldats ou non, des femmes et des enfants tombent en Afghanistan, en Irak ou en Palestine. Et les mêmes moralisateurs affirment que nous n'y faisons rien d'autre qu'exporter les valeurs suprêmes de la démocratie et des droits de l'homme. Lundi, aux funérailles de Lazare, les discours officiels vanteront sans doute la capacité de l'Union à faire régner la paix entre Européens. Comme si les guerres étaient moins meurtrières quand nous les menons loin de nos territoires. Lundi, je penserai à ces résistants d'avant l'heure, ceux qui n'ont jamais acquis ce titre parce qu'ils sont morts inconnus dans la boue, ces poilus français qui parlaient à Fritz, ces soldats bavarois ou bretons qui mouraient côte à côte en maudissant les riches. La Grande Guerre fut la première expression barbare de la mondialisation, ce que les socialistes de toutes tendances réunis à Bâle en 1912 appelaient encore l'impérialisme. L'Irak, l'Afghanistan ou la Palestine en seront-elles les dernières ? Malheureusement non, je rajoute. Et nous, Européens, qui vivons en paix sur notre sol, sommes-nous prêts, malgré les nouvelles formes de censure qui bâillonnent nos cerveaux, à les soutenir dans leur résistance.
Bien, quelques extraits du livre donc de Jérôme Garcin, Bleu Horizon. En guise d'avertissement, et avant de partir à l'assaut de Craonne, via Vieille Arcy et Pagnan, on nous ordonna d'assister, avec des régiments de zouaves médusés et d'anamites affolés, à l'exécution martiale d'un soldat qui avait tenté de déserter. On apprit ensuite que c'était l'ordinaire du théâtre aux armées, où il n'y a jamais d'entracte et où le rouge des rideaux est celui du sang. Jean et moi fûmes versés à la 12e compagnie du 57e régiment d'infanterie, surnommé le Terrible, et sous les ordres du capitaine Bord, dont le père avait siégé avec votre époux à l'aile gauche du conseil municipal de Bordeaux. Jean y voyait un signe généreux du destin. Il s'y voyait moins seul, presque en famille. D'ailleurs, notre capitaine le proposa de suite pour le grade de sous-lieutenant. Je crois bien qu'il vous l'a écrit, car il vous écrivait chaque fois qu'il avait un peu de répit. Tapis, à l'entrée de notre gourbie, je lui offrais mon dos qui tenait lieu d'écritoire. Lorsqu'il me lançait « Sois gentil, fais le bossu !» Je savais qu'il avait un irrépressible besoin de s'adresser à vous. Et je sentais entre mes omoplates le dessin appliqué des « Maman chérie, je t'embrasse de tout mon cœur » et des « Mille baisers, ton fils. » Notre boyau, creusé dans le calcaire situé tout près du bois des Baules, on se croirait, disait-il, dans un roman de Fenimore Cooper, se trouvait à quelques centaines de mètres de celui des Prussiens, d'où jaillissaient, lorsque la nuit tombait, des airs d'accordéon, des cantiques, et même parfois des pommes de terre, des paquets de cigarettes ou des plaques de chocolat. Pendant plusieurs jours, un grand Allemand privé de tête domina de son ombre notre tranchée. Chaque jour, on en sortait pour attaquer l'ennemi, et chaque jour, on revenait moins nombreux de notre ressuit fangeux, laissant sous le champ de bataille au fond des fosses grasses et glissantes où fumaient les shrapnels nos camarades déchirés, parfois coupés en morceaux, le visage d'un côté, les jambes de l'autre et le cœur au milieu. À peine avait-on eu le temps de faire connaissance qu'ils avaient disparu. On en venait, c'est-à-dire, à rêver d'une balle perdue, à offrir nos poitrailles aux batteries allemandes, car au moins, les balles font des blessures nettes et propres.
Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, il faut rejoindre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que bientôt viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Crane, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres purotins. Tous nos camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ça sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre impôt.
Oui, alors sur la très belle chanson de Craon que l'on vient d'entendre, il se trouve que j'y suis allé à Craon, et qu'à Craon, évidemment, il ne reste plus rien. Il m'est arrivé de voir des cartes postales de ce village, qui était un charmant petit village, bon petit village de France, vous savez, avec tout ce qu'il y avait d'agréable dans cette possibilité de vivre ensemble, etc. Et bon, là, il n'y a plus rien, comme tout au long du chemin des Dames, d'ailleurs. Un nouveau village qui s'appelle Craon aussi a été créé, reconstruit à côté, à 1 kilomètre. C'est ce qu'il y a de plus effrayant, je pense, dans cette visite, si l'on peut dire, je le mets entre guillemets, qu'on peut faire au chemin des Dames à partir de, vous savez, de l'an, etc. C'est que, en fait, il n'y a rien à voir.
Un texte de Georges Duhamel, ballade de Florentin Prunier. Il a résisté pendant 20 longs jours et sa mère était à côté de lui. Il a résisté, Florentin Prunier, car sa mère ne veut pas qu'il meure. Dès qu'elle a connu qu'il était blessé, elle est venue du fond de la vieille province. Elle a traversé le pays tonnant où l'immense armée grouille dans la boue. Son visage est dur, sous la coiffe raide. Elle n'a peur de rien ni de personne. Elle emporte un panier avec 12 pommes et du beurre frais dans un petit pot. Toute la journée, elle reste assise près de la couchette où meurt Florentin. Elle arrive à l'heure où l'on fait du feu et reste jusqu'à l'heure où Florentin délire. Elle sort un peu quand on dit « sortez » et qu'on va panser la pauvre poitrine. Elle resterait s'il fallait rester. Elle est femme à voir la plaie de son fils. Ne faut-il pas entendre les cris pendant qu'elle attend les souliers dans l'eau? Elle est près du lit comme un chien de garde. On ne la voit plus ni manger ni boire. Florentin non plus ne sait plus manger. Le beurre a jauni dans son petit pot. Ses mains, tourmentées comme des racines, étreignent la main maigre de son fils. Elle contemple avec obstination le visage blanc où la sueur ruisselle. Elle voit le cou, tout tendu de cordes, où l'air en passant, fait un bruit mouillé. Elle voit tout ça de son œil ardent, sec et dur comme la cassure d'un silex. Elle regarde et ne se plaint jamais. C'est sa façon comme ça d'être mère. Il dit « Voilà la toux qui prend mes forces. » Elle répond « Tu sais que je suis là. » Il dit « J'ai idée que je vais passer. » Mais elle « Non, je veux pas, mon garçon. » Il a résisté pendant 20 longs jours et sa mère était à côté de lui. Comme un vieux nageur qui va dans la mer en soutenant sur l'eau son faible enfant. Or, un matin, comme elle était bien lasse de ses 28 nuits passées, on ne sait où, elle a laissé aller un peu sa tête. Elle a dormi un tout petit moment. Et Florentin Prumier est mort bien vite et sans bruit pour ne pas la réveiller.
Oui, je songeais qu'en cette époque-là, je commettais encore bien Georges Duhamel, qui fut, malgré ce qu'il a écrit ensuite, qui fut un grand écrivain, et en particulier dans ce qu'il a écrit sur la guerre de 14-18, sans exact. Doute, à mes yeux, mais bon, je peux me tromper.
Et ses textes sur le cinéma aussi, qui étaient
très bons, oui, exact, voilà. Mais ces textes sur la guerre 14-18.
Alors, qui continue, c'est toi, Gérard ?
Ben, je vais continuer, allez. Donc, encore un extrait de Des Temps Maudits qui s'intitule Toussaint Trépassé. En ce 3 novembre, je pense qu'il est encore temps. Eh bien, non, il n'est pas de fête, Toussaint, fête des morts. Pour les morts, il n'est pas de fête. Il n'est pas de fête pour ces morts d'aujourd'hui. Trépassés, mais en vérité tués, entre-égorgés, et en vérité assassinés par ces prêcheurs sans risque. Hommes de mon langage de France, hommes de tous les sangs européens, hommes de tous les sangs du monde, ô morts, devant vos tombes, devant ces tertres où gisent vos restes, vos débris, je ne peux pas aller songer avec une âme recueillie, avec une pitié mélancolique et résignée. Je ne peux pas aller jeter les fleurs des morts sur ces morts sans repos, sur ces morts sans vengeance. Pour moi, ils sont sans repos. En moi, ils sont sans aucun repos et ils réclament leur vengeance. Leur âme, tourmentée, survit, se désespère et crie. Au-dessus de la monstrueuse destruction de leur corps, par-delà leur anéantissement inexpiable, ô morts, morts inapaisés, ma pitié pour vous est amère et violente. Que le dur vent des premiers jours de novembre, jonchant de feuilles pourries leurs tombeaux dérisoires, casse sur eux les chrysanthèmes et les immortels. Ils réclament un plus rude hommage. Ce qu'il leur faut, c'est l'âpre hommage de leur vengeance. Cette heure-ci n'est pas l'heure de l'adieu aux morts, elle n'est pas l'heure du repos pour eux ni pour nous. Elle est l'heure de la besogne résolue. Nous contenterons-nous de gémir, et parce que nous sommes si tristes et si seuls, abandonnerons-nous lâchement nos morts. Levons-nous, ô mes compagnons, levons-nous, c'est l'heure.
toujours de Guillaume Apollinaire, les soupirs du servant de Dakar. C'est dans la Cagna, en rondin voilé d'osier, auprès des canons gris tournés vers le nord, que je songe au village africain où l'on dansait, où l'on chantait, où l'on faisait l'amour, et de longs discours nobles et joyeux. Je revois mon père qui se battit contre les Ashantis au service des Anglais. Je revois ma sœur au rire en folie, au sein dur comme des obus. Et je revois ma mère, la sorcière, qui seule du village méprisait le sel, pilait le miel dans un mortier. Je me souviens du si délicat, si inquiétant fétiche dans l'arbre et du double fétiche de la fécondité. Plus tard, une tête coupée au bord d'un marécage. Ô pâleur de mon ennemi, c'était une tête d'argent. Et dans le marais, c'était la lune qui luisait. C'était donc une tête d'argent. Là-haut, c'était la dune qui dansait. C'était donc une tête d'argent. Et moi, dans l'antre, j'étais invisible. C'était donc une tête de nègre dans la nuit profonde, similitude pâleur. Et ma sœur, suivie plus tard un tirailleur, mort à Arras. Si je voulais savoir mon âge, il faudrait le demander à l'évêque. Si doux avec ma mère, de beurre avec ma sœur. C'était dans une petite cabane, moins sauvage que notre cagna de canonnier servant. J'ai connu l'affût au bord des marécages, où la girafe boit les jambes écartées. J'ai connu l'horreur de l'ennemi qui dévaste le village, viole les femmes, emmène les filles et les garçons, dont la croupe dure sursaute. J'ai porté l'administrateur des semaines de village, en chantonnant. Et je fus domestique à Paris. Je ne sais pas mon âge, mais au recrutement, on m'a donné 20 ans. Je suis soldat français. On m'a blanchi du coup. Secteur 59, je ne peux pas dire où. Pourquoi donc être blanc? Est-ce mieux qu'être noir? Pourquoi ne pas danser et discourir, manger et puis dormir? Et nous tirons sur les ravitaillements Bosch ou sur les fils de fer devant les bobos. Sous la tempête métallique, je me souviens d'un lac affreux et de couples enchaînés par un atroce amour. Une nuit folle, une nuit de sorcellerie comme cette nuit, où tant d'affreux regards éclatent dans le ciel splendide.
Oui, j'ai entendu dans ce poème superbe une évocation de la tribu des Ashanti, qui est une ethnie absolument remarquable de courage, de valeur, de richesse culturelle, qui ont tenu la dragée haute très longtemps. C'est parmi les derniers à résister en Afrique aux impérialistes anglais, et qui ont eu bien du mal et qui ont été battus dans quelques batailles bien souvent. Et les Ashanti sont actuellement une ethnie qui occupe la plus grande partie de la Gold Coast, enfin qu'on appelle maintenant Ghana évidemment.
Je vais vous dire une lettre d'un anonyme fusillé pour l'exemple. Un anonyme, le 30 mai 1917. Léonie chérie, j'ai confié cette dernière lettre à des mains amies, en espérant qu'elle t'arrive un jour, afin que tu saches la vérité, et parce que je veux aujourd'hui témoigner de l'horreur de cette guerre. Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n'est plus qu'un champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, des bombes, des barbelés, c'est les guerres des mines, avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales. Nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue. Une boue de glaise épaisse, collante, dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements et des crânes. L'odeur est pestilentielle. Tout manque. L'eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal ravitaillés. La gueuletouse est bien vide. Un seul repas de nuit et qui arrive à froid à cause de la longueur des boyaux à parcourir. Nous n'avons même plus de sèche pour nous réconforter parfois. Encore un peu de jus et une rasade de casse-pâte pour nous réchauffer. Nous partons au combat, l'épingle à chapeau au fusil. Il est difficile de se mouvoir. Coiffé d'un casque en tôle d'acier lourd et incommode, mais qui protège des ricochets et encombré de tout l'attirail contre les gaz asphyxiants. Nous avons participé à des offensives à outrance qui ont toutes échoué sur des montagnes de cadavres. Ces incessants combats nous ont laissés exténués et désespérés. Les malheureux estropiés que le monde va regarder d'un air dédaigneux à leur retour auront-ils seulement droit à la petite croix de guerre pour les dédommager d'un bras, d'une jambe en moins? Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie. Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au chemin des Dames. Ce fut un échec, un désastre, partout des morts. Lorsque j'avançais, les sentiments n'existaient plus. La peur, l'amour, plus rien n'avait de sens. Il importait juste d'aller de l'avant, de courir, de tirer, et partout les soldats tombaient en hurlant de douleur. Les pentes d'accès boisées étaient rudes. Perdu dans le brouillard, le fusil à l'épaule, j'errais, la sueur dégoulinant dans mon dos. Le champ de bataille me donnait la nausée. Un vrai charnier s'étendait à mes pieds. J'ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés. Une haine terrible s'emparant de moi. Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les mensonges de l'état-major. Tous les combattants désespèrent de l'existence. Beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher. Des tracts circulent pour nous inciter à déposer des armes. La semaine dernière, le régiment entier n'a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée. Et nous avons refusé de continuer à attaquer, mais pas de défendre. Alors, nos officiers ont été chargés de nous juger. J'ai été condamné à passer en conseil de guerre exceptionnel, sans aucun recours possible. La sentence est tombée. Je vais être fusillé pour l'exemple, demain, avec 6 de mes camarades, pour refus d'obtempérer. En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectif d'aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Je ne crois pas qu'ils y parviendront. Comprendras-tu, Léonie chérie, que je ne suis pas coupable, mais victime d'une justice expéditive. Je vais finir dans la fosse commune comme des morts honteux, oubliés de l'histoire. Je ne mourrai pas au front, mais les yeux bandés, à l'aube, agenouillés devant le peloton d'exécution. Je regrette tant, ma Léonie, la douleur et la honte que ma triste fin va t'infliger. C'est si difficile de savoir que je ne reverrai plus, que je ne te reverrai plus et que ma grande fille grandira sans moi. Concevoir cet enfant avant mon départ au combat était une si douce et si jolie folie, mais aujourd'hui, vous laisser seules toutes les deux me brise le cœur. Je vous demande pardon, mes anges, de vous abandonner. Promets-moi, mon amour, de taire à ma petite Jeanne les circonstances exactes de ma disparition. Dis-lui que son père est tombé en héros sur le champ de bataille. Parle-lui de la bravoure et la vaillance des soldats. Et si un jour, la mémoire des poilus fusillés pour l'exemple est réhabilitée, mais je n'y crois guère, alors seulement, et si tu le juges nécessaire, montre-lui cette lettre. Ne doutez jamais tous les deux de mon honneur et de mon courage, car la France nous a trahis et la France va nous sacrifier. Promets-moi aussi, ma douce Léonie, lorsque le temps aura lissé ta douleur, de ne pas renoncer à être heureuse, de continuer à sourire à la vie. Ma mort sera moins cruelle. Je souhaite à toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai pas vous donner. Je vous embrasse, le cœur au bord des larmes. Vos merveilleux visages gravés dans ma mémoire seront mon dernier réconfort avant la fin. Eugène, ton mari qui t'aime tant.
Extrait de poème 1924, Discours du grand sommeil de Jean Cocteau. La douche. L'usine à faire les morts avait son service d'hygiène. Tous les jours, 200 condamnés vont à la douche. 200 bestiaux tout nus, sauf le bracelet matricule. Ils se débattent presque tous. Tellement ils ont peur de l'eau, ils veulent garder leur chemise. Mais les fusiliers marins savent la valeur de l'eau douce qu'on respecte comme une vierge sur les voiliers. On met les capotes, les casques à bouillir dans une étuve. Les casques, on dirait des moules. La chaleur charme les poux. Serre chaude. La buée cache une drôle de floraison. Camélia, fumier qu'on force à fleurir toutes les saisons. Pauvres chairs en fleurs, jeunes arbres enracinés dans la boue. Vous attendez, toujours debout, une promesse de faux marbre. Tous les rires sont en patois. Mais, ah, je reconnais un geste, ce voyou se frottant le bras, ce cycliste, Paris, c'est toi. Le tour des nègres est un drame, ils refusent de se montrer nus. Ils résistent de toutes leurs forces, à moitié morts à l'ambulance, chargés d'amulettes, d'écorces, de coquillages inconnus, de désespoir, de silence. Ils pensaient à cacher leur sexe. Les nègres sont en tinnitus, vus dans un miroir, un noir miroir convexe. Malades, ils deviennent mauves. Ils toussent. Hélas, où sont-elles vos îles? Et vos crocodiles, où sont-ils ?
De Guillaume Apollinaire, Fusée. La boucle des cheveux noirs de ta nuque est mon trésor. Ma pensée te rejoint et la tienne la croise. Tes seins sont les seuls obus que j'aime. Ton souvenir est la lanterne de repérage qui nous sert à pointer la nuit. En voyant la large croupe de mon cheval, j'ai pensé à tes hanches. Voici des fantassins qui s'en vont à l'arrière en lisant un journal. Le chien du brancardier revient avec une pipe dans sa gueule. Un chat-huant, aile fauve, yeux ternes, gueule de petit chat et pattes de chat, une souris verte file parmi la mousse. Le riz a brûlé dans la marmite de campement. Ça signifie qu'il faut prendre garde à bien des choses. Le mégaphone crie « Allongez le tir ! Allongez le tir ! » Amour de vos batteries. Balance des batteries lourdes de cymbales qu'agitent les chérubins fous d'amour en l'honneur du dieu des armées. Un arbre dépouillé sur une butte. Le bruit des tracteurs qui grimpent dans la vallée. Ô vieux monde du 19e siècle, plein de hautes cheminées si belles et si pures. Virilité du siècle où nous sommes. Ô canon, douilles éclatantes des obus de 75, carillonnées. Pieusement.
Oui, ben le vieux monde a pris un coup de sérieux coup de faucille, si je puis dire, au mois d'octobre 1917 à Moscou et à Saint-Pétersbourg, Leningrad, et a donné beaucoup d'espoir au cœur de gens comme Marcel Martinet et bien d'autres, à la fois d'ailleurs du côté français et aussi du côté allemand, qui, j'en parlerai peut-être dans une prochaine émission à contre-courant, mais des gens comme Arnold Zweig, à ne pas confondre avec Stéphane, Arnold Zweig qui a mis en scène un personnage, un soldat intellectuel communiste allemand qui effectivement a eu une espèce de grand élan d'espoir lorsque effectivement la révolution d'octobre 17 en Russie a eu lieu. Alors, je vais répondre à une très pertinente question qui nous m'a été posée hors antenne, comme on dit dans les radios commerciales, par notre ami Marc, pour la publication des Temps maudits. Moi, j'avais ça dans une vieille édition 10-18 de 75, et ce magnifique recueil est reparu, et je le dis aussi pour les auditeurs, aux éditions Agone. A-G-O-N-E, hein, je pense que commence à être un peu connu maintenant, en 2004. Donc c'est de nouveau un texte qui était devenu introuvable, mais qu'on trouve maintenant de nouveau. Je vais vous lire un court extrait d'un poème qui s'intitule, toujours du même recueil, hein, « Les temps maudits », « Droits des gens ». 1916, 10 millions d'hommes sont morts. 1 million d'hommes de France. Et ceux qui reviendront, c'était quand ils partirent, le plus chaud, le plus pur de tous les sangs d'Europe, ce sang versé, ce sang souillé, ce sang glacé. Combien de ces millions encore qui reviendront, avec des corps minés, abîmés, ruinés, avec des cœurs gâtés, usés et las de tout. C'est la guerre. Tu ris et tu respires mieux, belle Europe, lumière et conscience du monde, ô charnier. 10 millions, les Césars, les présidents, les rois, avec leur parlement, leurs laquais, leurs ministres, travaillent tes discours. Et peut-être qu'ils songent la nuit et qu'ils ont peur de leur champ de bataille. Et ces nuits-là, les millions d'hommes, ils sont au loin, là-bas, dans la mort, attendant. Et aussi ces nuits-là, parfois, sur les cités tranquilles, des obus d'avions tuent des grappes d'enfants, de femmes, de vieillards calmement endormis. 10 millions d'hommes d'Europe assassinés, ils se sont assassinés les uns les autres. Puis encore des millions d'autres hommes menacés et déjà butant et fléchissant sous la main de la mort. Et alors les voici qui s'éveillent, les civils pacifiques. Nous sommes les civils, les innocents civils sans malice et sans armes, dans notre petit coin, dans notre bon quartier de Stuttgart, de Fribourg ou de Piccadilly, d'Auteuil, de Vaugirard ou de Ludwigshafen. C'est là qu'en lisant nos journaux paisibles, nous formons des vœux pour la victoire. Nous sommes les civils, nous. Là-bas, au loin, sont nos héros en uniforme, nos soldats, nos garçons, nos maris, nos frères. C'est terrible, ils se battent, on les tue, c'est la guerre. C'est eux qui nous protègent. Ils ne sont pas civils. Ils ont des uniformes, des fusils, des couteaux, des canons, des grenades. On les tue, mais ils tuent eux aussi. C'est la guerre. Mais nous, nous les civils, quand il y a là-bas ces millions de gens en uniforme, kaki, feldgrau, bleu horizon, ces millions de gens qui sont faits pour la mort, c'est la guerre. Maintenant, on va tuer les civils ? Les civils, on va tuer les civils sans défense ? Des vieillards, des malades, des bébés au berceau, des mères arrachées à leurs petits-enfants ? Ah ! C'est un crime affreux et ce n'est plus la guerre qu'un sauvage ennemi fait à ses innocents.
Eh bien, chers auditeurs, pour vous dire que merci à Gilles de nous avoir assuré la technique, hein, parce que
Gilles
cette émission,
Dulos, je tiens à souligner.
Sur cette émission sur la guerre de 14-18 et tous les messages qui ont pu être passés n'auraient peut-être pas eu lieu. Et alors, je vous invite à écouter la prochaine émission qui sera donc consacrée à la poésie cubaine, qui aura lieu le lundi 1er décembre de 15h à 16h. Salut.
Si je ne suis pas grand-père.